France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Marette. Bonjour.
Bonjour. Deux démissions d'un coup, François Bayrou et Marielle de Sarnez quittent le gouvernement, deux poids lourds qui s'en vont et la formation du gouvernement dont la composition doit être annoncée dans la journée. Cette formation se transforme en casse-tête pour la majorité. L'auteur de l'attaque hier dans une gare de Bruxelles a été identifié. Il s'agit d'un homme marocain de 36 ans. Il a été abattu par des soldats après avoir provoqué une explosion à la gare centrale. 66 départements sont en vigilance canicule. À cela s'ajoute la pollution à l'ozone dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Bas-Rhin et Paris. Et pourtant, à ce jour, il n'y a aucune mesure de restriction de circulation. Nous tenterons de comprendre pourquoi. L'invité de l'ABCDR sera la députée des Yvelines de La République En Marche, Marie Lebec, avec la lettre M comme majorité. Et puis à 12h55, la seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia Gesbert. Olivia, vous nous entendez ?
Moi, je vous entends très bien, pardon, on a rouvert les micros. Oui, dans la deuxième partie de la Grande Table, on continue à fêter la musique avec le compositeur, musicologue et pianiste franco-suisse Carole Beffa, qui sera notre invité. La musique, il en parle, il la compose, il la joue, et c'est le titre de son essai qui est paru au Seuil, extrait des cours, des conférences qu'il a données au Collège de France il y a quelques années. Il sera donc avec nous à partir de 12h55.
Eh bien, à tout à l'heure. François Bayrou ne sera pas resté longtemps dans le gouvernement d'Édouard Philippe, 1 mois et 4 jours. La garde des Sceaux a annoncé ce matin son départ, il doit s'en expliquer ce soir lors d'une conférence de presse. Il en est de même pour Marielle de Sarnez, la ministre des Affaires européennes, quitte également le gouvernement. Celle qui vient d'être élue députée de Paris prendrait la tête du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Antoine.
Après la démission de Sylvie Goulard, la situation des deux autres ministres Modem devenait intenable.
Difficilement tenable en tout cas. Richard Ferrand avait annoncé dès hier matin son départ du gouvernement, vraisemblablement à la demande de son mentor Emmanuel Macron, qui lui a offert un pont d'or pour prendre la tête du groupe majoritaire à l'Assemblée. Puis hier toujours, Sylvie Goulard annonçait elle aussi qu'elle renonçait à ses fonctions au sein du gouvernement pour pouvoir, je cite, démontrer librement sa bonne foi sur les conditions d'emploi de ses assistants parlementaires. Et puis, a-t-elle ajouté, l'honneur des armées ne saurait être mêlé à des polémiques auxquelles elles n'ont aucune part. C'est donc au nom de l'exemplarité et de la déontologie qu'elle a justifié ce départ. Mais là encore, il faut aussi y voir vraisemblablement la patte d'Emmanuel Macron. C'est une très proche, Sylvie Goulard, et elle a déclaré s'être entretenue et avoir préparé ce départ avec le président plusieurs jours avant l'annonce officielle de sa décision. Dès lors, c'est comme si tous les deux, Richard Ferrand, Sylvie Goulard, indiquaient le sens de la marche à François Bayrou et Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez, qui a été la première à lâcher du lest hier après-midi, en annonçant qu'elle pourrait très bien prendre la tête du groupe Modem à l'Assemblée. Bayrou, quant à lui, a dû avoir un peu de mal à avaler la pilule, mais il a compris sans doute qu'il n'avait plus le choix, parce que le dossier Modem n'est peut-être pas si transparent que ça, en tout cas qu'il pose des questions auxquelles il va bien falloir répondre. Quoi qu'il en soit, le président du Modem était vraisemblablement devenu plus une gêne qu'un atout pour le chef de l'État. Reste à savoir si Emmanuel Macron saura lui témoigner quelques gratitudes pour le soutien apporté jusque-là et pour qu'il continue à marcher droit.
Merci Stéphane Robert. On devrait connaître la composition du nouveau gouvernement ce soir au plus tard, normalement. Mais depuis ce matin, la donne est nouvelle, donc avec le départ de deux poids lourds. Et le nouveau casting pourrait s'apparenter à un casse-tête, Ludovic Piétonnier.
Oui, on est là sur quatre portefeuilles régaliens qui ont une très haute importance symbolique et politique pour Emmanuel Macron. Lui, l'Européen, par exemple, même s'il a bien l'intention de faire beaucoup de choses sur ce terrain tout seul, ne peut pas faire sans un ministre qu'on pourrait qualifier de Sherpa, en quelque sorte, ministre des Affaires européennes. Dans le même ordre d'idées, Macron, le chef de guerre, doit trouver un ministre, là aussi, Sherpa des armées. Idem pour la justice, avec la moralisation de la vie publique en étendard, un garde des Sceaux au-dessus de tout soupçon est essentiel. Idem pour ce ministère qu'il a appelé cohésion des territoires, celui de Richard Ferrand, essentiel là aussi pour un président qui ambitionne de rassembler les Français et de résorber les fractures. Une question reste en suspens, Antoine, faut-il aussi mettre un terme à la présence de Muriel Pénicaud au gouvernement. La ministre du Travail, avec une loi travail, on le sait, au menu des premiers débats parlementaires cet été, peut-elle être débarquée? Elle est citée dans une enquête visant Business France, une structure qu'elle dirigeait au début de l'année 2016 encore. L'enquête porte sur ce déplacement à ce moment-là à Las Vegas d'Emmanuel Macron, alors ministre des Finances à Bercy. Elle avait elle-même signalé à l'époque des irrégularités dans ce dossier, ce qui ajouterait potentiellement ce soir un cinquième ministre important à remplacer. Et puis, il faut dans ce paysage respecter les équilibres, les sensibilités politiques, la parité une question importante. Nous parlons d'au moins donc deux femmes et deux hommes. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, ce matin sur Europe 1, a brossé de façon à la fois très impressionniste et très macronienne le profil type des entrants, je vous le cite, des noms nouveaux, disait-il, évidemment, qui viendront d'horizons différents. Certains de la gauche, comme lui, Castaner, d'autres de la droite, comme Édouard Philippe, mais aussi des personnalités, disait-il, qui vont, en fonction de leurs compétences, pouvoir aller sur des postes extrêmement sensibles, comme celui de ministre des Armées, pour lequel le nom d'Arnaud Danjean revient régulièrement. Cet eurodéputé républicain est un expert reconnu des questions stratégiques et de défense. Danjean, c'est cette frange de la droite que l'on peut désormais appeler officiellement depuis quelques minutes les Républicains constructifs / UDI, puisque le groupe vient d'être créé à l'Assemblée nationale, une vingtaine de Républicains plus 18 UDI. L'annonce a été faite par Thierry Solaire, un ami du Premier ministre Édouard Philippe, dont le nom revient aussi avec insistance, comme celui du premier député républicain à avoir rejoint Emmanuel Macron, c'était pendant la campagne présidentielle, Jean-Baptiste Lemoine.
Merci à vous, Ludovic Piétenu. Les départs du gouvernement des trois ministres du Modem précédés par celui de Richard Ferrand interviennent quelques jours après des élections législatives marqué par un taux d'abstention record. Pour Éric Coquerel, député de la France Insoumise, tout cela est le signe d'une 5e République à bout de souffle.
Au-delà de François Bayrou, moi ce que je constate, c'est que, sauf erreur de ma part, on en est déjà à 4 retraits ou démissions du gouvernement en quelques semaines. De ce point de vue-là, François Hollande est largement battu. Et j'ai l'impression que l'enfumage autour d'Emmanuel Macron, d'une République exemplaire, de quelqu'un qui paraît marcher sur l'eau, va vite se révéler celui d'une 5e République avec tous ses défauts, avec des affaires, avec tout ce qu'on a déjà vécu sous François Hollande ou sous Nicolas Sarkozy. On va droit vers une crise de régime parce que la 5e République est à bout de souffle. Je pense qu'elle le montre en termes électoraux. C'est quand même la vie démocratique et parlementaire de ce pays qui est atteinte par une telle abstention. Et elle est aussi à bout de souffle parce que elle facilite le mélange entre des intérêts personnels, des intérêts de parti, des intérêts financiers et des intérêts politiques.
Invité de ce journal, la députée des Yvelines, Marie Lebec. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous faites partie de cette vague de La République En Marche. C'est votre premier mandat. Ce départ de François Bayrou, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron?
Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une décision qui est, je m'en doute, prise en concertation avec le Premier ministre, avec le Président de la République et avec les ministres Modem. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, on puisse travailler sereinement. Donc ça permet effectivement d'évacuer ces questions au Modem, de traiter cette histoire et des soupçons auxquels ils doivent faire face. Et puis après, voilà, il y a un partenariat Modem-La République En Marche avec la volonté de faire de la politique autrement. D'autres modems qui ont leur place au gouvernement une fois que cette affaire aura été évacuée.
Merci à vous, Marie Lebec. On vous retrouve dans l'abécédaire de campagne dans la dernière partie de ce journal. Marie Lebec, justement, vous allez pouvoir faire connaissance dans les prochains jours avec vos collègues à l'Assemblée nationale et notamment ceux du Front National. Ils sont 8, dont Marine Le Pen. Et ils ont fait ce matin leur arrivée dans le Palais Bourbon, n'est-ce pas Sébastien Sabiran?
Oui, et ça a commencé par un petit café, place du Palais Bourbon, Marine Le Pen entourée de ses 7 députés. Tout le monde est là, des visages souriants pour les caméras, celui un peu tendu de Ludovic Pajot, 22 ans, le Benjamin de l'Assemblée. Et puis la petite équipe fait son entrée, visite de l'hémicycle pour les nouveaux, comme Louis Alliot, 3 fois battu et aujourd'hui élu.
D'abord, ils sont beaucoup plus aimables que les socialistes estampillés socialistes, ils disent bon.
Alors ça, c'était Gilbert Collard, Louis Alliot,
qu'on entend. Je suis très heureux de représenter les Pyrénées-Orientales et la nation en même temps. Et puis, je vais m'occuper tout de suite des dossiers qui nous préoccupent localement. Tout ce qui est viticulture, ruralité, défense des services publics, parce que là, nous sommes directement touchés dans l'anti-proscription.
Gilbert Collard, lui, rempile dans le Gard. Il a fait connaissance avec quelques députés de La République En Marche.
D'abord, ils sont beaucoup plus aimables que les socialistes estampillés socialistes. Ils disent bonjour. Moi, quand j'étais arrivé il y a 5 ans, aucun socialiste ne nous saluait. Bon, maintenant, je crains fort que la réalité de l'Assemblée nationale ne révèle le vide abyssal de cette majorité.
Même tonalité du côté de Marine Le Pen, pas le temps pour l'émotion, la politique reprend ses droits. La présidente du FN martèle son refrain habituel sur le manque de représentativité de l'Assemblée.
Je persiste à dire que ce mode de scrutin est un véritable scandale, puisqu'encore une fois, avec 1,5 million de voix au second tour des élections législatives, nous n'avons que 8 députés. Alors qu'avec un tiers de moins, le Modem en a 42.
et de glisser un commentaire sur la démission de François Bayrou, représentative selon elle de la présidence Macron. Il en avait besoin avant l'élection, maintenant il n'a plus besoin du MoDem, alors il le jette comme un vieux torchon.
Merci à vous Sébastien Sabiron, merci également à Yvan Turc à la technique. La scission annoncée à droite se profile. Thierry Soler annonce la création d'un groupe commun avec les centristes de l'UDI, un groupe constructif qui va soutenir certaines réformes du gouvernement tout en s'opposant à d'autres si nécessaire. Une vingtaine de députés issus des Républicains devraient participer à cette initiative en plus des 18 de l'UDI. Dans l'actualité internationale, l'auteur de l'attaque hier dans une gare à Bruxelles a été identifié. Il s'agit d'un homme marocain de 36 ans. Il a été abattu par des soldats après avoir provoqué une explosion à la gare centrale. Selon plusieurs médias belges, il était originaire du quartier de Molenbeek. En direct de Bruxelles, on retrouve Pierre Benazet.
Oui, le parquet fédéral de Belgique vient de tenir une conférence de presse. On dispose maintenant de précisions réelles sur le déroulé des événements, mais un peu moins sur l'auteur des faits, qualifié depuis cette nuit de terrorisme. Vous le disiez à l'instant, il est né en 1981, il possède la nationalité marocaine, et le procureur fédéral confirme les informations parues dans la presse belge cette nuit, puisqu'il était effectivement résident de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, et son domicile y a d'ailleurs été perquisitionné aux petites heures de la matinée. Molenbeek, on s'en souvient, c'est cette commune du centre de Bruxelles où on gravit plusieurs des terroristes des attentats de Paris et de Bruxelles. En revanche, dans l'intérêt de l'enquête, les autorités belges se refusent à communiquer autre chose que les initiales de son nom, OZ. Le parquet a été beaucoup plus disert sur son mode opératoire d'hier soir à la gare centrale de Bruxelles, à 9h moins le quart, et on peut dire que les rares voyageurs présents à cette heure creuse ont eu beaucoup de chance. À 20h44, OZ s'est en effet placé au milieu d'un groupe épars de voyageurs. Il a actionné l'engin explosif placé dans son bagage, mais seule une flamme impressionnante s'en est dégagée sans toucher personne. L'homme s'est ensuite éloigné à la poursuite d'un chef de gare. Pendant ce temps-là, la deuxième partie de la charge a explosé. Cette fois, une véritable bombe à clous, mais la mitraille projetée n'a fait aucun blessé, car les voyageurs s'étaient enfuis après la première explosion. Il y a d'ailleurs eu un début de panique avec des voyageurs s'élançant pour traverser les voies. Et pendant ce temps-là, le terroriste s'est précipité en criant « Allahu Akbar » vers les militaires en patrouille dans la gare, qui l'ont immédiatement neutralisé de plusieurs coups de feu, entraînant sa mort.
Merci à vous, Pierre Benazet. Aux Philippines, des djihadistes occupent une école primaire dans le sud du pays. Ils retiennent des otages. Selon l'armée, ils s'en servent comme de boucliers humains. Les islamistes ont placé des bombes artisanales autour de l'école. Les vents de la croissance se confirment en France. Elles pourraient atteindre 1,6% cette année, beaucoup plus qu'en 2016. Selon l'INSEE, une progression liée à l'amélioration du commerce extérieur et à une bonne tenue de la consommation. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Antoine.
Alors ce sont des prévisions encourageantes pour le gouvernement.
Et pour cause, si ces prévisions se réalisent, on sera à un niveau de croissance qu'on n'a jamais atteint depuis 6 ans. 2 points au-dessus des estimations qui tournent actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que l'INSEE se montre plus optimiste? Le principal moteur de la croissance, la consommation, devrait perdurer. Un peu rogné par la hausse des prix, c'est vrai, mais les ménages sont toujours orientés vers les achats dans l'immobilier, ce qui est bon pour le bâtiment. Alors, tout cela contribue à la croissance. Côté entreprise, le climat des affaires est bien au-delà de la moyenne des années précédentes. Il n'a jamais été aussi haut depuis 2011. Et pour cause, les entreprises investissent davantage. Elles ont été encouragées par la mesure de suramortissement fiscal des investissements en particulier. Et puis, un coup d'œil sur le commerce extérieur. Il y a du mieux. Alors, on n'a pas renoué avec les excédents, ça non, mais une baisse du déficit est attendue. Autant d'indicateurs qui sont plus favorables et qui devraient jouer en faveur de l'emploi. L'INSEE tape sur 220 000 créations d'emplois cette année, un peu moins que l'an dernier, mais suffisant pour faire reculer le chômage. L'inversion de la fameuse courbe, elle s'afficherait clairement cette année. On restera quand même prudent, ce sont des prévisions, rien que des prévisions.
Merci à vous Jean-Marc Chardon. Des prévisions dans l'économie, on passe aux prévisions météo. Vous l'avez remarqué, sauf si vous habitez la pointe bretonne et le Cotentin, il fait très chaud, même très chaud. Pas besoin d'écouter le journal de France Culture pour le savoir. 66 départements sont en vigilance canicule et ça va continuer demain. Alors vous allez peut-être être tenté d'ouvrir vos fenêtres pour aérer les pièces, sauf que, en plus de faire chaud, il y a la pollution. Là où il fait le plus chaud, à savoir les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Bas-Rhin et Paris, une pollution à l'ozone. Pourtant, les mesures ont tardé à se mettre en place, Thomas Séchier.
Oui, les préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse s'en tiennent à une procédure d'alerte qui consiste surtout à recommander aux personnes âgées de rester chez elles. En région parisienne où l'indice de pollution est élevé, la préfecture de police est allée un petit peu plus loin en abaissant de 20 km/h la vitesse maximale sur les grands axes et en interdisant la traversée de l'agglomération aux poids lourds en transit. Ces deux mesures avaient été réclamées par la mairie de Paris. En revanche, le préfet de police a tardé à donner suite à la troisième demande d'Anne Hidalgo, à savoir la circulation différenciée. Il vient à l'instant de l'annoncer pour demain. Les voitures les plus polluantes n'auront donc pas le droit de rouler dans l'agglomération parisienne. Alors, il est vrai que la circulation différenciée est une mesure impopulaire auprès des automobilistes, que l'État, via les préfectures, ne prend qu'en dernier recours, privilégiant les mesures graduelles. Quitte à mettre en danger notre santé, répondent les associations environnementales. Pourquoi attendre le pic pour réagir au lieu de l'anticiper? Dans le cadre de l'ozone, il s'agit d'un polluant dit secondaire, un gaz oxydant qui se forme surtout en période de forte chaleur à partir notamment de substances rejetées par nos pots d'échappement et qui est responsable de 500 décès par an en France en cas d'exposition chronique. J'ajoute que la mairie de Paris a décidé de rendre gratuit les Vélib ainsi que le stationnement résidentiel. Tout cela pour inciter à ne pas prendre sa voiture. En revanche, la gratuité des transports en commun n'est plus automatique depuis que l'a décidé la présidente de la région Valérie Pécresse.
Et Météo France prévoit un retour à des températures raisonnablement chaudes à partir de vendredi dans tout le pays, sauf dans le sud-est où la chaleur continuera d'être intense. Midi passé de 46 minutes sur France Culture, l'heure de l'ABCDR avec vous Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui c'est la députée marcheuse Marie Lebec qui est votre invitée et la lettre du jour c'est le M comme majorité.
Marie Lebec, vous faites donc partie de la majorité, mot que nous avons choisi pour cette ABCDR, M comme majorité. Déjà peut-être vous venez de la droite, vous avez longtemps milité à l'UMP.
Tout à fait.
Et vous avez battu pour à l'occasion de ce scrutin législatif. Le candidat Les Républicains, auprès de qui vous avez milité pendant un certain nombre d'années, est-ce que ça veut dire que vous avez divergé sur ce que vous défendez?
Oui, c'est plus j'ai divergé au niveau de ce qui était proposé au national, puisque effectivement moi, après 10 ans à peu près passés chez les Républicains, je me retrouvais plus dans la vision, la façon de faire. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps pendant 5 années en querelles internes qu'il n'y avait pas de projet assez englobant chez les Républicains. Il y avait beaucoup de projet de courant, mais à un moment, un parti, c'est aussi pour dire quelle vision on donne à la France dans 10 ou 15 ans.
Ça veut dire quoi pour vous faire partie de la majorité ?
C'est un atout, je pense, parce que ça permet effectivement d'avoir tous les leviers d'action, d'avoir les relais d'écoute pour agir concrètement au niveau national et puis sur son territoire.
Est-ce qu'il faut une majorité et une opposition ? Est-ce qu'il y a un danger à avoir une trop forte majorité et une trop faible opposition ?
Alors, dans le cas spécifique de La République En Marche, on est quand même, il faut le rappeler, un mouvement qui s'est construit sur la notion d'être transpartisan. Donc, on vient à la fois de la gauche et de la droite. On a aussi des centristes qui sont représentés. On s'appuie beaucoup sur la société civile. Et tout ça fait que la notion de débat, on la porte dans notre ADN de parti. Donc, je pense que voilà, pour construire et pour travailler sur les projets de loi, il y aura de vraies discussions, de vrais débats. Moi, je ne le perçois pas comme un danger. D'ailleurs, on a beaucoup parlé, on a utilisé le terme majorité absolue pour rappeler ce côté un petit peu force, puissance. Moi, je ne me retrouve pas du tout dans ce discours-là. Je pense que voilà, ça n'empêche pas du tout l'opposition de s'exprimer. On connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale en fonction du poids relatif des groupes.
Mais on voit bien ce qui est en train de se passer à l'Assemblée. Il y a une atomisation des forces d'opposition. Là, il y a LR qui s'est scindé en deux et il y aura peut-être un troisième groupe. En tout cas, il y a des gens qui discutent pour ça. Les socialistes, on ne sait pas combien de groupes ils vont pouvoir faire, mais c'est pareil, ils sont divisés. L'extrême gauche, c'est pareil, entre les communistes et la France insoumise. Le Front National n'aura pas de groupe. On voit bien que c'est complètement atomisé, l'opposition. Alors, vous nous dites que l'opposition, elle sera au sein même de En Marche ?
Il n'y aura pas d'opposition au sein de En Marche. C'est un lieu de discussion. Vous savez, depuis le début, on a fait les comités locaux. Enfin, on a créé les comités locaux, c'est-à-dire ces instances de débat qui ont participé à l'élaboration du plan de transformation d'Emmanuel Macron. Et ça a toujours été justement un lieu de rencontre pour des différentes personnalités de la société civile, mais aussi du monde politique. Et je pense que ça, ce modèle-là sur lequel on a construit La République En Marche, qui doit se reproduire à l'Assemblée nationale, le groupe La République En Marche, ça doit être un lieu de débat entre, vous savez, aux réunions de groupe, mais aussi dans les différentes commissions. Après, vous parliez effectivement de l'atomisation des différentes oppositions. D'un côté, on parle beaucoup du manque de représentativité de l'Assemblée nationale. C'est ce que Marine Le Pen disait tout à l'heure à votre micro. Bon, finalement, on voit bien que c'est quand même bien représenté. Il y a les 4 grands partis qui étaient dans un mouchoir de poche au premier tour de la présidentielle sont représentés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est peut-être déjà une évolution par rapport à ce qu'on avait dans le quinquennat précédent.
Est-ce que faire partie de la majorité, ça va vous conduire à observer une certaine discipline de vote ou pas ?
Alors, il y a toujours cette notion, effectivement, de discipline de groupe, mais il faut rappeler comment fonctionne le processus législatif. Le gouvernement, il arrive avec un projet de loi, donc ça porte bien son nom. C'est-à-dire que c'est une première version qui doit, justement, susciter le débat, être discutée. Je pense qu'il faut qu'on renforce le lien avec la circonscription, enfin, chaque député avec sa circonscription, justement, pour faire un peu une expérimentation, faire de la pédagogie, expliquer, essayer d'avoir un retour du terrain sur la vision qui peut être perçue de la loi. Mais après, vous êtes répartis en commission, donc si vous devez voter un texte sur de la commission éducation affaires culturelles et que vous êtes dans la commission affaires économiques par exemple, effectivement il faut faire confiance à vos collègues de la commission affaires culturelles éducation pour être persuadé qu'ils ont fait le travail de fond d'analyse, de débat et voilà, donc la discipline de vote elle s'applique en séance publique et en commission, c'est un lieu de débat, c'est justement un lieu où on doit enrichir le texte, on doit l'améliorer, on doit le rendre efficace. Donc voilà, mais il y a un moment aussi, il faut accepter de se ranger à la majorité, sinon vous êtes tout seul et vous faites la révolution.
Donc vous aurez un degré d'autonomie limité, enfin vous pourrez faire valoir vos idées, mais au bout d'un moment, il faut quand même se discipliner.
Oui, je pense que c'est le processus démocratique. Le débat, il a lieu avant. Une fois que, voilà, si vous êtes isolé, vous n'allez pas imposer votre volonté. Hein. Il faut quand même, à un moment, accepter le fait que la majorité l'emporte. Sinon, vous n'avancez pas.
Vous disiez, vous êtes élu sous l'étiquette En Marche, et droite et gauche, puisqu'il y a des gens qui viennent de toutes les sensibilités. Est-ce que, pour vous, ce clivage-là a plus lieu d'être ?
Je pense que c'est un référentiel qui a encore du sens pour les Français. Donc c'est normal de s'identifier comme tel, parce que c'est ce que a dit très justement Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle, c'est dire on n'explique pas forcément pourquoi on est de droite et de gauche, c'est lié à sa famille, c'est lié à des rencontres, donc ça a du sens. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que, pour une fois, l'intérêt du pays doit primer sur le clivage partisan. Moi, je l'ai vécu vraiment très personnellement pendant la loi Macron, puisque je l'avais suivi en tant qu'attaché parlementaire. Et le texte a été énormément travaillé. Il y avait à la fois un consensus des députés de droite et de gauche qui participaient à ces débats. Le texte semblait aller dans le bon sens. Et la logique des partis a repris le dessus au moment du vote en séance publique. Et de peur, on a préféré le passer au 49-3. Pour moi, honnêtement, ça a été un énorme échec, parce que c'est pas ça la façon dont on doit faire de la politique. C'est on fait confiance aux députés qui débattent et entre eux et qui cherchent à améliorer le sujet. Et puis après, au bout d'un moment, il faut aussi aller de l'avant et se dire que voilà, la gauche et droite, c'est bien, mais quand le travail a été fait dans un esprit de consensus, il faut avancer.
Et du coup, comment est-ce que peut s'exprimer la contestation ? Est-ce que si elle s'exprime pas complètement à l'Assemblée nationale, qui est une sorte de poumon de la démocratie, hein, est-ce que il n'y a pas un risque que ça s'exprime dans la rue ?
S'il y a un risque, indéniablement, vous avez vu la faible mobilisation des Français aux élections législatives. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des Français qui ne se sentent plus représentés. Mais moi, je crois que la rue, c'est pas la solution. Et pour ça, il faut que le député évolue aussi dans son rôle. C'est vrai que c'est un élu de la nation, pas d'un territoire, mais il faut qu'il aille beaucoup plus faire le lien avec son territoire, faire de la pédagogie, présenter les textes, expliquer en quoi ça va changer la vie des citoyens, et puis ne pas hésiter aussi à s'enrichir de ce que dit le terrain, parce que justement c'est en étant à l'écoute du terrain que vous limitez peut-être la contestation.
Il y a pas mal de parachutés quand même parmi ces députés En Marche.
Qu'est-ce que vous appelez des parachutés?
Des gens, par exemple, qui viennent à Clichy-Levallois alors qu'ils viennent du 10e arrondissement de Paris, ou des choses comme ça.
Vous savez... Bon, on peut en débattre, mais je pense que ce qu'il faut noter, c'est que si vous êtes élu, vous êtes légitime. Les gens considèrent que vous avez fait le travail de conviction nécessaire, vous avez été à leur rencontre, vous avez été à leur écoute. Donc moi, je pense que la légitimité, elle vient du vote. Après, on peut toujours déplorer, mais bon, voilà, ça me pose pas spécialement de problème, dans le sens où vous allez à la rencontre des électeurs, vous cherchez à les convaincre, s'ils vous accordent leur confiance, tant mieux.
Comment est-ce que vous imaginez votre rôle à vous ? Est-ce que vous avez déjà choisi votre domaine de compétence, là où vous irez ?
Alors moi, il y a une commission qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la commission des affaires économiques. Elle a le mérite d'être transversale, de traiter d'un grand nombre de sujets, notamment des sujets qui impactent ma circonscription. Et puis, il y a aussi les sujets autour de la loi travail qui m'intéressent. Voilà, je l'avais suivi lorsque j'étais attachée parlementaire. Et je pense que voilà, il y a un énorme effort de pédagogie à faire sur pourquoi c'est important de réformer le code du travail, pourquoi il faut adapter le code du travail à la société de demain. Et voilà, ça va être très intéressant.
Et comment est-ce qu'on y arrive ? Il suffit de demander ou pas ? Dans cette commission ?
Pour intégrer les commissions, non, c'est une discussion qui se fait au sein du groupe. Vous présentez votre candidature, vos centres d'intérêt, pourquoi c'est cohérent que vous soyez membre de cette commission. Et puis après, voilà, effectivement, il faut qu'il y ait une répartition égalitaire. Si tout le monde demande la même commission, il faut bien que ça tranche.
Merci à vous, Marie Lebec. Merci à vous, Stéphane Robert. La canicule perdure sur une bonne partie de la France. Il va faire très chaud aujourd'hui. 36 à Paris, 31 Biarritz, 28 à Montpellier. Un peu de fraîcheur en Bretagne et dans le Cotentin avec 23 degrés à Cherbourg. Du beau temps à l'exception de quelques orages sur les Alpes. C'est la fin de cette édition préparée avec Yacine Bouzard. Prochain journal à 18h présenté par Tarach Legal.